Alexandre Dubé.
Les vrais enjeux, les vraies questions.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé.
À combien s'arrêtera la facture à la suite des travaux qui seront effectués pour le toit du stade olympique? On nous a avancé le chiffre de 870 millions de dollars, mais qu'est-ce que ça comprend? Nos collègues du bureau d'enquête ont fait l'examen des 490 pages de cette entente conclue entre le gouvernement du Québec et les firmes Pomerleau et Canam. Et c'est un travail minutieux de notre collègue Jean-Louis Fortin, donc éplucher les centaines de pages. Et ce qu'on apprend essentiellement, c'est qu'on va livrer le fameux anneau technique, mais on va le livrer tout nu. Fait que 870 millions, ça ne prend pas en considération les équipements qui font partie intégrante de l'anneau technique. Alors, c'est pas vrai que ça va coûter juste 870 millions, qui est déjà une somme assez considérable. Alors, ça exclut la ventilation, l'éclairage, l'électricité, les haut-parleurs, qui sont, avouons-le, là, indispensables pour utiliser le stade. Je pense pas que Taylor Swift va venir s'il n'y a pas d'éclairage, s'il n'y a pas de haut-parleurs. On aura beau avoir un bel anneau technique, mais il faut s'en servir, il faut l'équiper. Donc là, lorsqu'on additionne tout ça, des chiffres du 12 mars, il y en a pour à peu près 91 millions de dollars pour la ventilation, l'électricité et le son. Ajoutons à ça la facture pour l'éclairage et le système de levage des équipements scénographiques. Deux éléments dont les coûts seront de moins de 20 millions chacun. Donc, additionnons tout ça, on frôle pas mal le milliard. Et selon le gouvernement Legault, grâce aux rénovations qui sont prévues, les retombées économiques du stade vont passer de 68 à 150 millions de dollars par année. Mais oubliez ça, là, une facture à 870 millions, là, ça sera beaucoup plus élevé que ça. Il faut absolument revenir sur le reportage de notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles sur la cohabitation difficile, la mixité difficile dans le quartier Saint-Henri. Avec l'ouverture, il y a une dizaine de jours, de la maison Benoît Labre, qui comporte 36 logements, un centre d'inhalation supervisé. Il y avait des craintes au niveau de la cohabitation entre les familles du secteur et la clientèle de toxicomanes qui se rendent là. Il faut comprendre une chose aussi. Dans un rayon de quoi même pas 100 mètres, il y a une école. Et c'est ça qui est drôle. Hein? C'est deux poids, deux mesures. Lorsqu'on veut établir une succursale de la SQDC, la loi prévoit qu'on ne peut pas le faire à moins de 250 mètres d'une école. Cégep, peu importe, école secondaire, cégep. Mais c'est drôle, pour un centre d'inhalation supervisé, qu'on mette ça à moins de 100 mètres là, d'une école, bon, pas grave, ça c'est correct. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on se dit, est-ce que c'est vraiment un lieu propice qui a été choisi? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Voici ce que les parents ont raconté à notre collègue Yves Poirier. Bon. Ça a des allures de refuge à ciel ouvert. Il y a des sans-abri et des consommateurs qui se sont installés avec leurs effets personnels dans les marches d'escalier d'un immeuble résidentiel. Il y a des voisins qui ont retrouvé des seringues au sol. D'autres se sont fait engueuler par une personne en état d'ébriété ou sous l'influence de drogue ou je sais pas quoi. Les enfants qui sortent de l'école pour la récréation sont témoins de scènes dégradantes. Il y a des enfants qui ont vu des itinérants faire pipi juste devant eux. Il y a des adultes, des parents qui se font lancer des roches, il y a des bagarres. Ça fait juste 10 jours. Ben, les sans-abri, il y a des bons services, ça va bien. Est-ce qu'on peut penser une seconde aussi au voisinage, aux gens autour, aux jeunes qui fréquentent l'école? Mais non, on implante ça. Il faut offrir des bons services. Ben oui, mais est-ce qu'on a pris en considération les gens aussi qui vivent là, là? Tu sais, on met beaucoup de l'avant la mixité sociale, puis faut pas stigmatiser. Et là, la directrice de la maison, Benoît Labre, dit « Ça devrait s'améliorer, parce que là, il y a des travaux dans l'entrée principale. Ça, c'est en cours d'exécution, et quand ce sera complété, la situation devrait s'améliorer. » Mais il y a de la présence policière aussi, mais je vous dis, c'est deux poids, deux mesures, là. Avant d'installer une succursale de la SQDC, on s'assure avec notre tape à mesurer, là, 250 mètres d'une école. Puis on s'en va mettre, là, un centre d'inhalation supervisé juste à côté d'une école dans un secteur résidentiel. Je sais pas qui a eu cette brillante idée-là, là, mais c'est pas fort. Les policiers du SPVM sont en colère actuellement, et c'est une histoire de la presse, c'est qu'ils ont reçu des sanctions disciplinaires pour avoir engagé une poursuite en voiture après une agression mortelle dans un stationnement. Et là, les policiers, dans cette enquête de Daniel Renault et Vincent Larouche de la presse, disent, écoutez, là, on ne sait plus sur quel pied danser. Si on ne peut pas poursuivre un suspect dans une agression mortelle, dans quelles circonstances on va pouvoir le faire, là? Est-ce qu'on peut faire notre travail ou il y a toujours quelqu'un là, qui va essayer de nous reprocher quelque chose? C'est vrai que ça doit être fatigant sur un méchant temps, sincèrement, là. Et il y a un témoignage, un policier d'expérience qui témoigne sous le coup de l'anonymat qui dit « Les bandits ont plus peur de nous. Ils savent qu'on ne peut pas faire de poursuite parce que nos dirigeants ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils foncent sur nous avec leur char. » On a vu ce que ça a donné, là. Entre autres avec les voleurs de voitures qui foncent impunément là, sur les policiers. Après ça, il y a des membres de la famille qui viennent brailler dans les médias. Ah ben là, le suspect est à l'hôpital, les policiers auraient dû agir différemment. Foncer dessus avec son char. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le policier? Et autre source de la presse dit, si les policiers ne peuvent pas engager une poursuite quand il est question d'un meurtre, quand pourront-ils le faire? Ça, c'est la grande question aussi. Mais il y a vraiment de la grogne en ce moment au sein du SPVM. Et dans les circonstances, je comprends. Je les comprends très bien. Et à la une du Devoir, on revient sur le rattrapage en chirurgie au niveau de la santé. Il y a un an, on a annoncé un grand plan de rattrapage. De l'argent sur la table également, 400 millions de dollars en collaboration avec les médecins spécialistes. Or, on apprend qu'il y a seulement 60 des 400 millions de dollars prévus à cette entente-là qui a été utilisée. La Fédération des médecins spécialistes du Québec salue le premier pas franchi, mais rappelle qu'il y a de l'argent sur la table en disant on est prêts là, à le faire. Et le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait un petit rappel d'ailleurs aux établissements concernant l'existence de cette somme. Mais quand on regarde les chiffres fin mars, la première cible a été ratée par Québec. 7600 patients en attente d'une intervention chirurgicale depuis plus d'un an. Et là, on n'en est pas là du tout. On est à même plus de 11 800. Qui sont toujours sur cette liste-là. Il va falloir effectivement accélérer le pas. Et sur la scène culturelle, les réactions sont extrêmement nombreuses. À la suite de la publication donc de cet ultime album des Cowboys fringants, Pop Royal, où on entend la voix de Carl Tremblay, à titre posthume, c'est bouleversant, surtout la pièce, la fin du show. Je vous dis, là, ça dure 7 minutes. Et ça vaut la peine de l'écouter. C'est le testament artistique de Carl Tremblay qui revient sur sa carrière. Je sais pas comment ils ont fait pour enregistrer ça, sincèrement. Moi, j'ai été très ému à l'entendre et je vous invite vraiment à le faire. Bienvenue à Cube. Voici votre nouvel épisode.